Nous sommes toujours à l'étonnant festin où la cuisine est à l'honneur et l'alimentation avec. Et si l'appétit vient en mangeant, il vient aussi et surtout en parlant de cuisine. C'est justement ce que nous faisons dans ce cycle de conférences où on se nourrit de ces échanges en partageant des savoirs, en transmettant aussi, un peu comme de la cuisine finalement. Changement d'ambiance et de saveur pour cette conférence qui va suivre, intitulée « Mangeons vrai ». Elle vous est présentée par Anthony Fardet, ingénieur agronome formé à AgroParisTech et chercheur en alimentation préventive et durable à l'INRA. Bonjour Anthony Fardet et bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages « Pourquoi tout compliquer, bien manger, si simple » sorti en novembre 2021 aux éditions Thierry Soucard. En 2017, vous pointiez du doigt notre mauvaise alimentation avec votre premier livre « Halte aux aliments ultra transformés, mangeons vrai » paru également chez Thierry Soucard. Anthony Fardet, vous avez fait une découverte empirique, une découverte qui prend la forme d'une règle, celle des 3 V, vrai, végétal et varié. Alors de quoi s'agit-il ? Expliquez-nous pourquoi cet ordre est si nécessaire.
Pour bien comprendre la règle des 3 V, je pense qu'il faut revenir à la définition d'un aliment sain. Et après, on comprend mieux la règle des 3 V. Donc, c'est des travaux qu'on a publiés depuis 2016, une quinzaine d'articles scientifiques sur ce sujet. Parce qu'en fait, pour la plupart des gens, un aliment sain, c'est un peu l'approche très réductrice, très réductionniste. Donc, depuis plusieurs décennies, un aliment sain est considéré comme un aliment équilibré en quelques nutriments. C'est comme ça qu'on voit l'aliment sain, ce qui va donner les scores de composition. Mais en fait, c'est erroné. Il n'y a aucun aliment équilibré nutritionnellement à part le lait maternel. Il n'y a que le lait maternel qui est totalement équilibré pour la croissance du nourrisson. Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'un aliment sain ? Et tant qu'on n'est pas d'accord au niveau mondial et académique sur ce que c'est qu'un aliment sain, on n'arrivera pas à des recommandations pour la population qui sont efficaces. Donc il faut sortir des nutriments, c'est-à-dire un aliment équilibré nutritionnellement, puisque ça n'existe pas, d'où le manger varié. Si on vous dit de manger varié, bah, c'est tout simplement parce qu'aucun aliment n'est équilibré. Sinon, il suffirait de manger le même aliment tous les jours, toute la population mondiale sur toute la planète, et on aurait une seule monoculture sur toute la planète. Donc une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce qu'un aliment sain ? Eh bien en fait, aujourd'hui, avec une approche plus globale et holistique, c'est tout simplement l'aliment le moins transformé possible pour être à la fois comestible, bon, c'est important, le plaisir, et sûr d'un point de vue sanitaire. Voilà, c'est tout simplement ça. Et ça change tout, parce que d'abord, pour choisir ces aliments, on ne le choisit pas sur les nutriments, mais on va le choisir sur le degré de transformation. Et c'est cette nouvelle définition de l'aliment, du potentiel santé d'un aliment, qu'on a publié en début d'année, et c'est un peu passer de la terre plate à la terre ronde, hein, de passer de l'équilibre nutritionnel à l'aliment le moins transformé possible. Et donc la règle des 3 V, c'est quoi ? C'est prendre en compte justement cette nouvelle définition du potentiel santé de l'aliment. Donc on a amené des recherches très empiriques, c'est-à-dire l'empirisme c'est quoi en science ? C'est une grande démarche scientifique qui consiste à partir du réel, et à partir du réel d'élaborer de nouveaux concepts, des nouvelles théories, qu'on qualifie d'unificatrices, c'est-à-dire holistiques. Donc moi je m'inscris plutôt dans cette démarche, et dans cette démarche on a découvert la règle des 3 V. En fait, tout simplement, la question qu'on s'est posée, c'est quelles sont les différentes dimensions de l'alimentation qui gouvernent la relation alimentation-santé globale, c'est-à-dire humaine et planétaire. Est-ce qu'il y a des dimensions qu'on peut qualifier de génériques, c'est-à-dire applicables sur toute la planète, presque universelles, qui gouvernent cette relation ? On en connaissait deux. On connaissait le rapport produits animaux sur végétaux. On savait qu'il y avait des recommandations qu'il fallait réduire les produits animaux pour la planète et la santé. Donc nous, on a appelé cette dimension végétale, pour encourager les gens à végétaliser un peu plus. Ensuite, on savait que la diversité alimentaire est importante pour les besoins nutritionnels, d'où le manger varié. Donc c'est la deuxième règle qu'on a appelée variée. Et l'originalité de notre démarche, ça a été d'inclure une troisième dimension qui était le chaînon manquant, mais qui était la dimension la plus importante. Et c'est celle qui manquait, c'est le degré de transformation, qui renvoie au potentiel santé de l'aliment dont j'ai parlé, c'est-à-dire qu'un aliment sain est le moins transformé possible. Et cette dimension du degré de transformation est émergente depuis seulement 12 ans. Elle a été négligée par les scientifiques et pourtant elle était fondamentale. Par exemple, si je vous dis de végétaliser votre assiette, mais si vous végétalisez avec des aliments végétaux ultra transformés, qui sont de la chimie comestible, comme les fromages, les substituts de viande, les laits végétaux, c'est ni meilleur pour votre santé, ni meilleur pour la planète. Donc vous voyez que ce degré de transformation est fondamental. Donc on l'a appelé vrai pour les vrais aliments, par opposition aux faux aliments qui sont les aliments ultra transformés. Donc ce qui donne vrai, végétal, varié. Et c'est le bon ordre. Et cet ordre, on l'a découvert seulement fin 2021. Avant, on n'avait pas pris conscience qu'il y avait un ordre important. Donc il y a bien une hiérarchie, si vous voulez, à respecter quand on fait ses choix alimentaires. En tout cas, vous voyez que pour manger pour la planète, c'est très simple. C'est la règle des 3 V, vrai, végétal, varié. C'est la seule question que vous ayez à vous poser au quotidien, et c'est compréhensible même par des enfants de 6 ans, puisque j'en ai parlé à des enfants de 6 ans, c'est je réduis les aliments ultra transformés, le vrai, je végétalise un peu plus le végétal, et je varie un peu plus. Et si possible, pour le varier, bio, local ou de saison, si possible, parce que ce n'est pas toujours possible à 100%. Cette règle, vous voyez, est très simple à acquérir et elle est suffisante pour bien manger en préventif, pour soi et la planète. Donc on a voulu, si vous voulez, dans cette théorie unificatrice et holistique, compacter tout l'enseignement de l'alimentation en deux lettres. Et c'est très intéressant parce que toute la science aujourd'hui, tous les résultats scientifiques ne font que confirmer cette règle, c'est-à-dire aucun résultat ne s'y oppose. Et si on enlève une règle, ça ne marche plus et on n'en a pas trouvé de quatrième. Par exemple, si vous faites, vous voulez faire vrai végétal varié, vous faites faux végétal varié. Faux, c'est les aliments ultra transformés. Très transformés, chimiques comestibles, très détériorés, même artificialisés. Ce n'est pas meilleur pour la planète et la santé, que ce soit animal ou végétal. Si vous faites vrai animal varié, on sait que trop de produits animaux, ce n'est pas viable pour la planète ni pour la santé. Et si vous faites vrai végétal monotone, la monotonie ne stimule pas la biodiversité agricole et entraîne des carences ou des déficiences. Donc vous voyez, c'est très simple à comprendre. Alors pourquoi une hiérarchie ? Parce qu'en fait, on choisit et on achète d'abord des aliments. On n'achète pas un régime quand on fait nos courses. Là, vous allez acheter des aliments un par un. Vous les achetez un par un. Et ce n'est pas forcément pour constituer votre régime. Donc c'est pour ça, c'est le vrai le plus important. Parce que le vrai, c'est le critère de sélection d'un aliment. C'est-à-dire, est-ce qu'il est ultra transformé ou pas ? Donc ici, j'imagine qu'il n'y a pas d'ultra transformé, j'espère. Et je vous donnerai rapidement tout à l'heure la définition d'un aliment ultra transformé. Donc, on choisit l'aliment le moins transformé possible avec le vrai. Et ensuite, cette fois-ci, à l'échelle de la semaine, on végétalise et on varie. Pour l'équilibre, cette fois-ci, en nutriments. Parce que l'équilibre nutritionnel se fait à l'échelle d'un régime sur une semaine et non d'un aliment. Choisir un aliment sur la nutrition n'a aucun sens scientifique. Il faut le choisir sur le degré de transformation. Alors, brut, pourquoi pas, mais on va dire le moins transformé possible parce que, d'une manière ou d'une autre, on est obligé de transformer nos aliments, à part de manger des fruits frais ou de redevenir un chasseur-cueilleur. Voilà, donc vous voyez que c'est très très simple en fait. Quand on a une approche très globale de l'alimentation, on s'aperçoit que les choses sont très simples. C'est pour ça que j'avais voulu publier un deuxième bouquin qui s'appelle « Pourquoi tout compliqué, bien manger est si simple ?» Parce que quand on sort des nutriments, l'approche par nutriments, quand on sort de cette approche qu'on appelle réductionniste ou réductrice et qu'on adopte une approche globale et holistique, eh bien les choses deviennent très simples en fait. Et donc, bien manger n'est absolument pas compliqué. Alors, ce n'est pas compliqué sur le papier. C'est peut-être plus compliqué dans la réalité. Mais on a quand même calculé qu'on pouvait manger 3V en hypermarché. C'est possible. Pour 5% moins cher qu'un régime riche en produits animaux et ultra transformé. Donc, vous voyez qu'en faisant un petit effort, on peut tout à fait manger en tenant compte de la règle des 3V, même en hypermarché. Parce que vous avez aussi des produits industriels étiquetés emballés qui sont de qualité. Pour la règle des 3V, donc pour faire simple, vrai, ça veut dire ne pas consommer plus de 1 à 2 aliments ultra transformés par jour. Végétal, dans l'idéal, au niveau mondial, il ne faudrait pas dépasser 2 à 3 portions de produits animaux par jour. Alors, ce n'est pas beaucoup, mais c'est largement suffisant pour rester en bonne santé. Et je rappelle qu'à Okinawa, c'est moins de 10% de calories animales par jour, le régime traditionnel Okinawa, et c'est pourtant une zone bleue avec des centenaires. Donc, vous voyez, on peut manger peu de produits animaux et très bien se porter. Donc en fait, la règle des 3V, on va dire que c'est une règle flexitarienne, c'est-à-dire qu'on consomme moins de produits animaux, on supprime tous les produits animaux de mauvaise qualité en intensif et on va vers des produits animaux de très bonne qualité en extensif à 100% essentiellement, dont on respecte le bien-être des animaux. Et enfin, le varié, bah, ça veut dire consommer un peu de tous les groupes alimentaires, il y en a une douzaine, fruits, légumes, légumineuses, tubercules, céréales complètes, fruits à coque, champignons, fruits de mer, viande blanche, viande rouge, poisson gras, poisson maigre, etc. Et dans chacun de ces groupes, on essaye de varier en consommant, je pense dans l'idéal, ce serait bien 3 aliments différents dans chacun des groupes, ce qui fait à peu près 35 aliments au moins différents par semaine. Bon, après, l'idée, c'est qu'on n'est pas une calculatrice pour manger, manger doit être un plaisir, doit pas être prise de tête. C'est pas le but, parce que l'alimentation, elle est là pour soutenir la vie, pour créer du lien, du partage. Et donc, c'est ça l'approche holistique, c'est recréer du lien dans un acte alimentaire que l'on a totalement déconstruit, à tel point qu'on est passé d'une alimentation qui est synonyme de plaisir, de partage, de plein de choses humanistes, on est passé à un repas en poudre à reconstituer en 30 secondes devant un écran que l'on mange seul. Vous voyez, c'est ça le réductionnisme, c'est-à-dire qu'on a réduit l'acte alimentaire à une bouteille en poudre qui n'est qu'une somme de nutriments. Il n'y a même plus d'aliments complexes et de matrices alimentaires. Et donc là, vous voyez ce que c'est que le réductionnisme alimentaire. On réduit, réduit. On a réduit l'acte alimentaire à une somme de nutriments. Et ça, c'est catastrophique. C'est ce qui a amené aux aliments ultra transformés et aux maladies chroniques dans le monde. Et donc ça me permet de définir l'aliment ultra transformé, si vous avez des questions après. Alors, un aliment ultra transformé, en fait, c'est assez simple théoriquement. C'est un aliment qui contient ce qu'on appelle des marqueurs d'ultra transformation. C'est quoi ces marqueurs d'ultra transformation ? Ce sont tous les additifs cosmétiques pour modifier les propriétés sensorielles de l'aliment. Donc ce sont les texturants pour la texture en bouche, les colorants pour la couleur et les modificateurs de goût pour le goût. Voilà, donc ce n'est pas les conservateurs. C'est vraiment, on est vraiment dans l'idée d'artificialiser couleur, goût et texture. Pourquoi est-ce que c'est très rentable de faire ça ? On peut exacerber les goûts, on peut imiter les vrais aliments. Donc on est bien dans des faux aliments, les arômes imitent les vrais fruits. Le soda remplace l'eau, le pain de mie et les céréales du petit déjeuner pour enfants remplacent le vrai pain. Donc c'est des aliments qui se substituent à vos vrais aliments avec des conséquences planétaires et santé catastrophiques, des coûts cachés environnementaux gigantesques. Deuxième type de marqueur d'ultra-transformation, les arômes, extraits d'arômes, arômes naturels ou de synthèse. Ils sont tous des marqueurs d'ultra-transformation, donc là on agit cette fois-ci sur l'odorat. C'est très rentable, hein, parce que quand vous modifiez ces propriétés sensorielles, d'abord, vous consommez l'aliment plus que de raison. Qui n'a pas fini un paquet de chips ultra transformé alors qu'il n'avait plus faim, juste pour le plaisir addictif, ce qu'on appelle le bliss point ou le point de félicité, qui est calculé par les industriels, qui est l'ajout maximum de gras, sucre et sel, qui ne soit pas écœurant. Donc, ils calculent l'optimum, et quand on dépasse cet optimum, ça devient écœurant. Donc, ils calculent ce bliss point ou point de félicité. C'est très bien démontré, notamment pour les snacks sucrés, salés, gras et les sodas. Troisième marqueur d'ultra-transformation, alors vous ne les connaissez pas, ils sont mal connus, c'est tous les nutriments ultra-transformés, c'est-à-dire glucides, lipides, protéines, fibres ultra-transformées, donc les isolats de fibres et de protéines, qu'on va retrouver beaucoup dans les steaks végétaux, les laits végétaux, les fromages, il y a plein d'isolats de protéines, protéines de lactosérum, protéines hydrolysées. Même un isolat de fibres est un composé purifié qui est un marqueur d'ultra-transformation, parce que ces composés sont purifiés et issus du cracking alimentaire. C'est-à-dire qu'on fait comme le pétrole, on déconstruit l'aliment jusqu'aux briques élémentaires, et ces briques élémentaires ensuite peuvent être modifiées par des voies enzymatiques et chimiques, soit rajoutées à d'autres aliments pour corriger ce qui a été dégradé, ou l'artificialiser pour vous pousser à consommer plus que de raison, le racheter, et quand les enfants sont ciblés très tôt, on en fait des clients à vie. Parce que c'est très difficile de se débarrasser des habitudes alimentaires, notamment quand on consomme ces aliments ultra transformés. Et enfin, et puis dans les glucides ultra transformés, alors vous en avez plein, vous avez les sirops de glucose, des sirops de glucose fructose, des polydextroses, des sucres invertis, les extraits de malt d'orge, les amidons. Enfin, vous voyez tout ça que vous voyez sur les emballages, ce sont des sucres ultra transformés. Et enfin, ce qu'on appelle la cuisson-extrusion, quatrième type de marqueur, ou le soufflage, qui déstructure totalement votre aliment, comme les céréales du petit déjeuner pour enfants cuites extrudées, même si elles sont Nutri-Score A, c'est des bombes de sucre et de la chimie comestible. Quel est le point commun de tous ces marqueurs d'ultra-transformation ? C'est qu'on a déconstruit l'aliment et on l'a artificialisé. Voilà. Et c'est cette déconstruction de vos aliments, leur artificialisation, qui va engendrer après les maladies chroniques quand ils sont consommés en excès dans le monde entier. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine d'études, 110 études épidémiologiques, qui vont toutes dans le même sens. Quand vous consommez beaucoup ces aliments, vous êtes plus à risque de maladies chroniques, de mortalité précoce, et ça empêche l'espérance de vie en bonne santé, je dis bien en bonne santé, d'augmenter. En France, l'espérance de vie en bonne santé n'augmente quasiment plus. Elle est à 64 ans et on était à 67 ans dans les années 90. Donc on a même perdu 3 ans de vie en bonne santé. Donc on vit de plus en plus longtemps et de plus en plus longtemps malade. Donc les aliments ultra transformés, ils ne sont pas les seuls, mais ils jouent un grand rôle dans l'explosion des maladies chroniques au niveau mondial. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout. Donc si vous avez des questions...
Oui, vous avez parlé donc des nutriments, mais... Comment lutte-t-on contre l'agroalimentaire a sélectionné un certain nombre d'aliments depuis, on va dire, 1945 excluant un certain nombre d'autres, et on s'aperçoit que dans ces aliments sélectionnés, il y a de moins en moins de nutriments. Comment on lutte contre ça ?
Oui, c'est ce qu'on peut lire. Alors après, il faut quand même faire attention, parce que les tables de composition des nutriments d'il y a 70 ans ne sont pas aussi précises et n'utilisent pas les mêmes méthodes qu'aujourd'hui. Donc la comparaison est un peu difficile. Mais c'est vrai qu'on entend souvent dire que les tomates, les fruits contiennent moins de nutriments. Donc ça, c'est plus la transformation dont je parlais. On est en amont, c'est-à-dire ça peut être les sélections génétiques où on va sélectionner nos fruits, légumes, nos céréales, non pas sur des critères nutritionnels, mais plutôt sur des critères économiques, financiers. Par exemple, on va sélectionner des tomates à la peau très épaisse pour qu'elles résistent dans les cageots à l'empilement. Donc on se retrouve avec des tomates qui poussent plus vite que prévu dans des serres, comme dans le sud de l'Espagne, avec des peaux épaisses qui n'ont plus aucun goût et qui c'est juste de l'eau. On a l'impression de manger et de croquer de l'eau, quoi. Alors après, j'ai pas en tête la littérature. Il est très possible, effectivement, que nos fruits et légumes et nos produits végétaux aient perdu en nutriments protecteurs. Ça, c'est possible. Cependant, je pense que ça reste pas le problème fondamental. Le problème fondamental, c'est vraiment l'ultra-transformation, parce que ces produits ultra-transformés, justement, sont très pauvres en micronutriments protecteurs. Leur pauvreté va au-delà de l'effet de ce que vous avez souligné. Donc le vrai enjeu aujourd'hui, mais l'enjeu que vous soulignez est important, il faudra certainement revenir à des sélections génétiques, peut-être de variétés anciennes, mieux résistantes au changement climatique, et qui sont naturellement riches en micronutriments. Et quand on mange de saison, par contre, on sait que nos fruits et légumes sont plus riches en nutriments quand ils suivent le cours des saisons. Que quand, forcément, une tomate qui pousse toute l'année en serre, c'est sûr qu'elle n'aura pas les mêmes nutriments que si elle suit sa croissance naturelle. Mais le premier enjeu au niveau planétaire, c'est vraiment de réduire la consommation des aliments ultra-transformés. Et après, pour les agronomes en amont, c'est de... Voilà, effectivement. Et là, on est toujours dans le réductionnisme, c'est-à-dire on sélectionne nos variétés. D'abord, on réduit le nombre de variétés, donc on est toujours dans la réduction. Et on optimise quelques variétés pour des raisons plutôt économiques, financières et de rentabilité, plutôt que pour des raisons de santé. Par exemple, on a sélectionné les blés sur le taux protéique, mais on aurait très bien pu imaginer qu'on les sélectionne sur leur densité en micronutriments protecteurs, fibres, minéraux, vitamines, antioxydants, polyphénols. On aurait très bien pu choisir ce critère, en fait. Mais on ne l'a pas choisi, parce qu'on avait une vision réductionniste de rentabilité, puis il fallait... Après-guerre, fallait nourrir tout le monde, fallait l'autosuffisance, parce que avant-guerre, il y a eu la peur de pas manger. Et donc la France a voulu être autonome alimentairement. Donc c'est pour ça que l'INRA d'ailleurs a été créé en 1946. Mais bon, on a choisi la voie du réductionnisme, c'est-à-dire de l'optimisation de la rentabilité. Peut-être il aurait fallu choisir une autre voie plus holistique et plus résiliente, avec une agriculture plus raisonnée. On aurait pu faire ce choix en 1945, mais on ne l'a pas fait, parce qu'on est dans des sociétés occidentales qui sont très dominées par cette pensée cartésienne réductionniste. On est imprégné de ça. Et par exemple, c'est ce qui donne l'ultra-transformation, c'est le fruit de cette pensée réductionniste qui déconstruit le réel au point de créer des aliments qui sont déconnectés du réel, donc des faux aliments ultra-transformés.
Reconnectons-nous au réel aujourd'hui via l'étonnant festin. Merci Anthony Fardet. Merci. D'être venu sur notre plateau. Bon appétit à toutes et à tous.
Merci.